Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Nous sommes le mardi 26 novembre, vous écoutez Syllab. Il est 6h avant minuit. L'homme le plus vieux de la planète est mort à 112 ans. Dans sa vie, le Britannique John Tiniswood, né le 26 août 1912, aura vu deux guerres mondiales, l'avènement de droits sociaux portés par des luttes sans précédent, des périodes de prospérité économique et de libération des femmes et des minorités, la chute du mur de Berlin, la paix, l'invention d'Internet. Puis plus tard, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, la mondialisation, le retour en force de l'extrême droite et le renforcement des mouvements conservateurs, le réchauffement climatique, les tensions puis la guerre en Europe. Si l'histoire est un grand cycle, John Tiniswood en était le plus ancien témoin. Si après la pluie vient le beau temps, espérons quand même que ce ne sera qu'une légère bruine et pas un ouragan destructeur. Tout de suite, le flash d'Eva.
Kiev accuse la Russie d'activités génocidaires. Voilà ce qu'a affirmé ce matin un représentant du ministère de la Défense ukrainien dans une conférence de presse. Oleksandr Ryabtsev accuse Moscou d'utiliser des mines antipersonnelles sur le sol ukrainien. Des villes, des exploitations agricoles, les stations de transport publics dans des régions où résident quelques 6 millions de personnes sont les cibles touchées selon le ministère. Face à cette situation, Kiev a annoncé renoncer à son engagement sur la destruction de son stock de mines antipersonnelles héritées de l'époque soviétique. Dans ce contexte d'escalade du conflit russo-ukrainien, l'Allemagne ressort ses vieux bunkers.
L'Allemagne débute le recensement de tous les bâtiments, qu'ils soient privés ou publics, qui peuvent servir d'abri en cas d'attaque. On l'a appris hier par le porte-parole du ministère de l'Intérieur lors d'un point presse à Berlin. Il a notamment déclaré qu'un répertoire numérique de tous les bunkers sera établi afin que les gens puissent les trouver rapidement à l'aide de leur téléphone portable. Ce plan, surnommé Offensive Bunker par le quotidien allemand Bild, survient dans un contexte tendu. Jeudi 21 novembre, lors d'une allocution télévisée, Vladimir Poutine a informé avoir lancé sur le territoire ukrainien un nouveau type de missile balistique hypersonique baptisé Oreknik. Ce dernier serait selon lui invincible. Le même jour, il a menacé les pays occidentaux. Le leader russe a signalé qu'il n'excluait pas de frapper les pays dont les armes fournies à l'Ukraine sont utilisées contre la Russie. Il a également estimé que le conflit avait à présent un caractère mondial. De quoi renforcer l'inquiétude des pays qui lui sont proches géographiquement, dont l'Allemagne. Dès 2022, soit le début de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, les autorités allemandes avaient cessé le démantèlement des bunkers ainsi que leur vente. Depuis 2025, 300 de ces abris datant pour la plupart de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre froide avaient été vendus. Actuellement, l'Allemagne possède 579 bunkers. Sur 85 millions d'habitants et d'habitantes, ils ne peuvent protéger que 480 000 personnes. L'État encourage donc sa population à aménager des abris chez elles et eux, dans leur cave ou leur garage par exemple. L'Allemagne n'est pas le seul pays en Europe à assurer ses arrières. En avril dernier, en Suède, le gouvernement avait annoncé débloquer un nouveau budget, 385 millions de couronnes supplémentaires, soit 33 millions d'euros, pour renforcer ses abris anti-atomiques, ses services d'urgence et sa défense civile. On peut ajouter que la Suisse, probablement le pays le plus bunkerisé du monde, avait dès l'année dernière annoncé une rénovation de son parc d'abris déjà très sophistiqué. Pour info, fin 2022, le pays comptait plus de 9 millions de places protégées pour 8,7 millions d'habitants et d'habitantes.
Merci Aglaé. La menace d'un 49-3 plane à l'Assemblée nationale et les écologistes et socialistes n'en veulent pas. À chaque fois qu'il y aura un 49-3, nous déposerons une motion de censure, a annoncé la présidente du groupe La France Insoumise, Mathilde Panot, ce matin. Selon France Info, trois textes budgétaires sont susceptibles d'être soumis à un 49.3. C'est notamment le cas du projet de financement de la sécurité sociale. Pour rappel, si une motion de censure passe, le gouvernement actuel devra démissionner. L'actuelle maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, ne se représentera pas à la mairie de Paris aux élections municipales 2026. Dans un entretien avec Le Monde, aujourd'hui, cette dernière explique que deux mandats étaient suffisants pour mener à bien de profonds changements. Après 8 ans d'activité, l'édile souhaite laisser la place. Elle soutient la candidature du sénateur du Parti socialiste, Rémi Féraud. D'autres candidatures sont également connues, comme celle de la ministre de la Culture, Rachida Dati, ou de l'ancien premier adjoint de la maire de Paris, Emmanuel Grégoire. L'affaire Paul Pogba remonte à 2022, mais le procès vient de s'ouvrir au tribunal correctionnel de Paris. 3 amis d'enfance, 2 connaissances et le frère de Paul Pogba vont être jugés pour leur implication présumée dans l'enlèvement et l'extorsion du footballeur français. Son frère est jugé de tentative d'extorsion et d'association de malfaiteurs délictuels. Les 5 autres amis sont jugés pour extorsion, enlèvement et association de malfaiteurs. En tout cas, Paul Pogba s'était déjà exprimé en septembre 2023 et avait dit que malgré tout ce qui s'est passé, ils garderont une place dans son cœur, car c'est la famille. Vous êtes passionné de voile, menuisier, menuisière ou professionnel dans la gestion des déchets, et si vous rejoignez CRAB ? CRAB, ou la Coopération Revalorisation Aménagement Bateau, est une association née à Rennes. Christy Socconi Pinto. C'est ça ?
Christy Socconi Pinto.
Pinto, pardon. L'une des fondatrices a expliqué à Aglaé le projet.
On a eu beaucoup de soutien de la part des professionnels du secteur, les chantiers navals qui nous disaient nous en fait on a beaucoup de propriétaires de bateaux qui abandonnent leurs bateaux dans nos chantiers. Du coup on se retrouve avec 10 à 20% de nos bateaux dont on sait pas quoi en faire. On peut pas les réparer, ils peuvent pas aller sur l'eau, ils vont être détruits, enfouis, brûlés. Donc ouais, c'est une superbe idée de se dire il y a des années, il y a des gens qui ont construit en série plein de bateaux en pensant avec des matériaux pas forcément écologiques mais très très résistants dans le temps, mais ils ont pas pensé à qu'est-ce qu'on en fait quand on s'en sert plus quoi. Donc nous l'idée c'est plutôt de partir sur cette fin de cycle de vie du bateau, quand il ne sert plus à rien, qu'est-ce qu'on en fait. Et nous on a décidé du coup de les réutiliser pour les citoyens et la vie de tous les jours quoi. Évidemment là on est en train d'essayer de constituer un collectif vraiment solide pour vraiment pouvoir faire plusieurs prototypes de bateaux abandonnés qui seraient du mobilier urbain quoi. Alors l'idée c'est de faire une boîte à livres, nous on a appelé cette boîte le bateau livre. L'idée c'est vraiment de couper du coup le bateau en deux et faire la structure du coup extérieure vers le haut et en fait se servir des bords extérieurs pour que ce soit des assises en fait. C'est vraiment de partir de ce type de bateau qui sont donc des dériveurs des 4m20 pour voir tout ce qu'on peut faire avec ce type de bateau quand ils n'ont plus utilité en mer, voir ce qu'on peut en faire sur terre. Tout peut avoir une autre utilité, on peut les récupérer, on peut les revaloriser, donc faisons-le. Et en plus ça permet de respecter l'environnement. On lance aussi un appel à essayons de penser autrement et de préserver nos côtes. Je suis contente de faire un projet qui va servir à ma région parce que je l'adore.
Et si ce projet vous intéresse et que vous souhaitez le soutenir, une campagne de financement participatif a été lancée le 30 octobre sur la plateforme KissKissBankBank. Cela permettra de financer le premier prototype de crabe qui sera ensuite installé sur la côte d'Émeraude. Quand les sangliers s'attaquent aux cultures, c'est déjà bien embêtant. Alors imaginez des sangliers morts devant chez vous. Ouais, pas fou. Ouais. Mais hier, les jeunes agriculteurs 35 et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles 35 avaient un message à faire passer à la direction départementale des territoires et de la mer. Alors, 70 à 80 agriculteurs et agricultrices ont manifesté lundi devant les portes de la direction en y déposant des suidés décédés. Selon Actu Bretagne, leur message est une plainte, celle de l'agrandissement des hordes de sangliers qui détruisent leur culture et souhaitent ultimement que ces suidés soient classés comme nuisibles. Une grogne qui s'inscrit dans un contexte de mobilisation plus large liée au traité Mercosur dans le monde agricole. Après trois occupations éphémères dans les halles en commun depuis septembre 2023, le bar, restaurant et café-concert Grabuge inaugurait le week-end dernier son bâtiment définitif. Notre reporter, Jean, est allé découvrir ce nouveau lieu alternatif, convivial et ouvert à toute proposition culturelle.
C'est la première fois à Grabuge ce soir. J'ai passé la porte, j'ai trouvé ça hyper accueillant, hyper chaleureux. C'est un lieu très atypique, il faudrait plus de lieux comme ça à Rennes.
On s'est associés à trois, il y a Martin Bonnade, Gaspard Ayé et moi.
Benjamin Charles, cofondateur de Grabuge.
Pour répondre à un appel d'offres de la ville de Rennes qui avait une ancienne chaufferie dans l'usine militaire, le Rochelter, qui sont devenues les halles en commun, ils cherchaient un lieu de vie et de convivialité où il y avait de la nourriture et un bar. On a commencé à écrire le dossier en se disant qu'on pourrait faire du théâtre, des conférences, des concerts, des DJ, du street art. Ça matchait bien avec la halle en commun, en fait, qui est un lieu d'ESS, économie sociale solidaire. Nous, on va pouvoir dynamiser et faire venir les gens pour faire découvrir ce lieu qui a 20 structures associatives. On a commencé à faire des choses éphémères. On a fait trois lieux différents dans les halles en commun un peu partout. On a vu qu'il y avait une forte demande à la Courrouze pour ce genre de lieu.
Je suis venue à tous les Grabuges hors les murs. J'ai fait toutes les ouvertures, toutes les fermetures, toutes les réouvertures.
On vient boire une petite bière et découvrir comment c'était transformé.
Franchement, le bâtiment, il en jette.
C'était une ancienne chaufferie, comme je disais. Il y avait vraiment tout à refaire. Le territoire a pris en charge en fait, le fait de rénover, rétablir pour que ça soit ERP, pour recevoir du public. Et nous, on s'est occupé de la partie aménagement intérieur.
C'est génial, ouais, réhabiliter un ancien quartier, réhabiliter des anciens lieux. Des anciens locaux comme ça, on garde un peu l'histoire de la ville, côté industriel.
Il y a eu une très belle rénovation du lieu.
Grabuge, c'est un style même avec les graffitis, ça donne tout de suite une ambiance assez sympa.
La capacité, c'est 200 personnes. Dedans, il y a un restaurant, cuisine ouverte et un bar et une scène.
Un lieu chouette, alternatif, moi j'aime beaucoup. Pas mal de sons et pas mal de soirées proposées.
La prog est toujours géniale.
On a mis un partenariat en fait avec une association résidente qui s'appelle Bisbee. Ils auront en charge la programmation de tous les mercredis soirs. Sur une programmation plutôt économie sociale solidaire. Et on commence un peu dans le feu de l'action, parce que là on a Barbar qui arrive le week-end prochain, après on a Bar en Transe.
Ça promet de belles soirées, ouais.
Jeudi prochain, on fait un flash day tattoo. On invite 4 tatoueurs en fait qui vont tatouer toute la journée.
Je pense que ça répond à une demande qu'on était tous en attente de ce genre de lieu.
Le lieu, les gens, c'est vraiment une bonne population, un endroit safe et c'est vraiment cool d'y aller.
Grabuge, c'est surtout faire du mélange. On peut tout faire. Venez à Grabuge et venez avec vos idées surtout. Nous on est ouverts, il y a plein de choses à faire en tout cas. Et on vous attend.
Grabuge est ouvert le midi du mardi au vendredi et le soir du mardi au samedi. Demain commencent les saisons Hanabi à l'Arvor. Le principe, 7 films japonais en avant-première pour le public breton et ça jusqu'au lundi 2 décembre 2024. Le premier film de la saison, My Sunshine, de Hiroshi Okuyama, a été présenté au Festival de Cannes 2024 dans la catégorie Un certain regard. Et il passe demain, soir, à l'Arvor, à 20h. Pour plus de renseignements sur la programmation, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Arvor.
Merci Eva. Aglaé a deux invités ce soir.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Lunettes rondes, cheveux longs et pull rayé, j'ai en face de moi Cyril Guitard, chargé de communication chez 40 mètres cubes. Et à ma droite, il arbore des lunettes rondes également, des cheveux courts et une veste en tartan qu'il a enlevée. Nous recevons Thibaut Aymonin, chargé de communication à La Criée. Bonsoir.
Bonsoir.
À vous deux.
Bonsoir.
Donc hier et aujourd'hui d'ailleurs avaient lieu les journées professionnelles des centres d'art contemporains, c'est bien ça. En quoi est-ce que ça consiste ?
À toi l'honneur, Thibaut.
Les centres d'art comme les nôtres sont des centres d'art qui sont labellisés par le ministère de la Culture, qu'on appelle un peu sauvagement Cassin, et qui sont tous plus ou moins réunis... Sous la même association qui s'appelle DCA, qui est une association qui prône le développement des centres d'art contemporain et qui, depuis quelques années maintenant, trouve un temps qu'on n'a pas toujours entre professionnels de ces centres d'art pour qu'on se rassemble autour d'une thématique dans une ville de notre choix qui est capable d'accueillir presque 160-170 personnes. Et cette année, c'est Rennes. C'est Rennes autour de la thématique des transitions écologiques.
Donc, l'objectif de ces journées, c'est de se rencontrer autour de thématiques, c'est bien ça, en rapport avec l'art. Cette année, en tout cas, ces deux journées, c'était
en rapport avec la transition écologique. Donc il y a eu beaucoup de nombreux ateliers organisés par rapport à ça. Est-ce que vous, personnellement, vous avez participé à des ateliers ?
Oui, on a participé tous les deux à des ateliers. Le même, d'ailleurs, pour nous deux, ce qui nous concerne. Mais en effet, il y avait de nombreux ateliers, nombreuses formes de temps de rencontres et d'échanges. En ce qui concerne les ateliers, il s'agissait d'explorer de différentes manières cette thématique des transitions écologiques. Et en ce qui nous concernait, c'était un petit peu se projeter dans l'avenir. En gros, les centres d'art de 2050. Quelles sont les nécessités d'adaptation, quelles sont les anticipations à avoir, quelles sont les transformations de nos modes de fonctionnement, comment on peut à la fois s'adapter, mais aussi agir pour éviter des conséquences trop néfastes pour le fonctionnement de nos structures. Donc ces thématiques qui sont abordées lors des journées professionnelles de DCA, c'est un moyen de nous faire réfléchir toutes et tous ensemble autour de réalités concrètes de nos professions. Donc ça peut aborder des thématiques artistiques, mais des fois c'est simplement nos métiers, ce qu'ils deviennent, comment ils se transforment, comment ils évoluent. Et puis là, donc très concrètement, un facteur dont on est responsable, le changement climatique, et qui nous pend au nez, qui est déjà arrivé. D'ailleurs, on a vite constaté que ce n'était pas forcément nécessaire de se projeter en 2050 pour commencer à réfléchir à des adaptations, mais c'était dès maintenant. Et on a vu des collègues de zones un peu plus touchées que nous en Bretagne par des températures extrêmes, par des précipitations extrêmes, de l'érosion, notamment par exemple des centres d'art contemporain qui peuvent être situés en région de montagne, moyenne montagne, et qui constatent très clairement que l'environnement autour d'eux devient assez potentiellement dangereux, tout simplement.
Et donc, pour pallier ces problèmes, est-ce que dans ces ateliers, vous abordez aussi des solutions, ou qu'est-ce qui est dit dans cet atelier par rapport à tout ça ?
On essaye de trouver des solutions, on est tous ensemble réunis pour ça en tout cas. La structuration de la journée d'hier, on reviendra peut-être sur la journée d'aujourd'hui par la suite, mais s'organiser de temps. Un premier où on se réunissait tous entre même corps de métier, donc avec Cyril, entre chargé de communication, avec d'autres chargés de médiation, les directrices, les chargés de production et régisseurs, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, on soulève les grands chantiers que sont les nôtres au sein de nos corps de métier. Et là, on essaye de trouver des solutions. Alors, trouver une solution pour 2050, ça ne se fait pas si simplement que ça. Mais en tout cas, la collaboration et l'échange permet forcément de soulever certaines petites solutions qui sont déjà mises en place à gauche, à droite, et qui font qu'ensemble, on essaye d'aller mieux vers demain.
Par exemple ?
Oui, voilà. Quelles sont ces solutions ?
Par exemple. ces journées-là, elles entrent aussi en écho avec un programme un peu plus dense qui est porté notamment par DCA et grâce au ministère de la Culture qui a débloqué une subvention qui nous permet de faire des diagnostics environnementaux de certains centres d'art dont la Criée a été dans les premiers impactés par cette enquête-là. Et donc dans ce cas-là, on nous apprend, on est aiguillé par un super labo qui s'appelle les Augures à quantifier, peser et savoir quelle est notre empreinte carbone combien on dépense de papier, combien une encre ça coûte, combien un site internet ça émet de CO2. Et donc on épluche un petit peu tous ces petits trucs qui font ce qu'on fait au quotidien. Tout ça donne un certain poids. Et après, on essaye de développer un site plus responsable, de trouver un papier qui est peut-être un peu plus français, un peu plus correctement produit, ou avec plus de visibilité sur l'origine. Et donc, on partage un petit peu toutes ces solutions-là.
Et chacun, de ces corps de métier, pour dire, parce que là, Thibaut parle de la communication, mais chacun des corps de métier au sein des centres d'art contemporain a pu explorer ces thématiques-là. Si on pense à la production des œuvres, c'est savoir faire un peu plus d'éco-conception, mieux sourcer les matériaux, mieux choisir les peintures, en tout cas avec des formules chimiques qui ont un petit peu moins de conséquences sur l'environnement et toutes ces questions-là. Donc chaque corps de métier, comme le disait Thibaut, en se réunissant le matin, a pu élaborer un petit peu des, ou en tout cas échanger des pratiques, des idées et des expérimentations qui peuvent être faites dans les différents centres d'art contemporain pour réduire l'empreinte carbone.
Et je me permets de rajouter un truc, c'est que là on parle de solutions techniques, mais ces solutions-là elles sont aussi organisationnelles. Nos directrices se sont réunies pour aborder par exemple la question de la programmation qui s'adapte à cette transition justement. Comment on fait pour nous qui avons une mission de visibilisation de la scène internationale, continuer à faire venir des artistes du Brésil, parce que par exemple en 2025 c'est l'année France-Brésil. Comment on invite des artistes brésiliens tout en jouant de ces enjeux-là? Donc voilà, il y a aussi des enjeux d'organisation au-delà des enjeux techniques.
Et donc par exemple, pour cette question-là, de, si on doit inviter des artistes qui viennent de très loin, comment est-ce qu'on fait du coup, excepté prendre l'avion?
Alors ça dépend des projets, ça dépend des productions, ça dépend des contextes d'invitation. Ça peut être trouver un ou une artiste qui est déjà sur le territoire, mais qui a un lien avec, avec un pays plus éloigné. Ça peut être un artiste qui fait de la vidéo, et là, d'un seul coup, ça pèse autre chose, mais en tout cas, le transfert n'est pas le même. Et puis, on essaye de réduire les transports. On ne fait pas 5 allers-retours dans l'année pour préparer le projet. Les visios nous aident un petit peu pour ça aussi. Puis voilà, on essaye de s'organiser un petit peu pour faire le moins possible. Mais de toute façon, on ne fera jamais zéro, et on le sait.
Il faut continuer à faire, ça c'est important. Il faut, en effet, quand on aborde la question des artistes qui sont à l'étranger, il s'agit bien dans l'art de continuer ce brassage-là, de plus continuer à se rencontrer. On ne peut pas rester sur un territoire qui se réduirait énormément. Mais il faut songer aux moyens de limiter les impacts que ça peut avoir. L'exemple de Thibaut est très bon. On peut continuer à inviter des artistes qui seraient à l'étranger, mais on fait attention au nombre de déplacements que ça nécessite. On ne va pas en faire 5, d'après l'exemple que tu as pris. En effet, si on peut limiter à 1 ou 2, eh bien, c'est déjà bien.
Mmh. Et juste quelques minutes avant, vous avez parlé des diagnostics environnementaux de la DCA, du coup, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'il y a un webinaire qui a été organisé début novembre. Les diagnostics ont été révélés, je crois. Est-ce que vous auriez là les chiffres en tête du bilan?
Ça, c'est pour moi. pour revenir un petit peu sur ces diagnostics-là, il faut savoir que c'est une mission que le ministère a étendue à l'ensemble des formes artistiques qui découlent du ministère. Donc les FRAC pour le milieu art visuel sont dans cette mission-là, les festivals, les théâtres nationaux, voilà, tout le monde se lance dans cette transition à cette échelle-là. À l'échelle des centres d'art, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que 5 centres ont été sélectionnés, et parmi ces 5, la CRIE, qui a eu un petit plus encore, qui au-delà du diagnostic environnemental a même eu un bilan carbone complet. Donc là, ça nécessite 2 ans de travail, c'est les données de 2022 qui ont été analysées, donc on a tout récolté, et puis on a été accompagné pour essayer de comprendre tout ce que ces données voulaient dire. Et aujourd'hui, on est en mesure de dire que la CRIE, c'est 45 Français annuels. Alors, ça ne veut rien dire quand on vous dit ça, mais ça nous permet, nous, de savoir que finalement, ce n'est pas tant, que l'ensemble du réseau DCA, c'est donc 58 centres d'art, c'est moins lourd en carbone que... le Louvre, bien sûr, mais...
Que le musée du Quai Branly.
Que le musée du Quai Branly, voilà, on est à peu près équivalent. Donc, vous imaginez que 58 structures versus un musée... Donc, voilà, on essaye de se placer aussi dans cet échiquier. Nous, des chiffres se révèlent aussi sur quel point il faut qu'on travaille. Une des questions épineuses de ces deux jours étant la mobilité des publics.
C'est la partie la plus importante, très très nettement.
C'est ce qui coûte
de l'empreinte carbone des centres d'art.
À la CRIE dans les chiffres, c'est notre chiffre fétiche qu'on adore lancer comme ça. À la CRIE, 93% de nos émissions CO2, c'est la mobilité de nos publics. On décortique, on essaye de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une question de réseau brétilien qui fait que tout le monde prend sa voiture? Est-ce que Est-ce que c'est parce qu'il y a une personne en fait qui est venue en avion et que sur les 93%, bah, 46% c'est la personne qui est venue en avion.
C'est d'autant voilà. plus étonnant que vous êtes en plein centre-ville.
Oui, c'est ça.
Complètement.
A priori, on y va moins en voiture, de moins en moins en tout cas.
Donc voilà, du coup, il y a un peu toutes ces données-là qui sont hyper intéressantes à soulever parce qu'elles nous font un point zéro et qu'elles nous permettent de dessiner la, la phase dans laquelle là on vient de se lancer à la CRIE, un plan d'action sur les 10-15 prochaines années pour savoir quel chantier il fallait qu'on lance.
Et donc, du coup, quel chantier est-ce que vous allez lancer? Enfin, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des idées, du coup, déjà, par rapport à ça?
Ben, je vais vous décevoir, il n'y a pas d'idées très concrètes que vous allez pouvoir observer. non, mais pour reprendre l'exemple de la mobilité des publics, ça va être à acter une enquête de mobilité qu'on avait fait pour récolter ces premières données. Et voir comment d'année en année ces choses vont évoluer pour pouvoir aussi avoir des chiffres de comparaison, pour pouvoir bah, les appuyer un peu plus haut ou à l'endroit où on sait que des leviers sont activables. Ça va être se lancer dans un grand chantier de mise à jour de la base contact parce qu'on sait tous qu'on cumule des milliers d'adresses mail dans nos newsletters et que y en a quand même pas mal qui ne sont pas trop ouvertes. Bah voilà, ça va être des petites choses. Hein. L'idée, c'est pas de faire des choses monstrueuses qui nous prennent un temps énorme parce qu'il faut continuer à faire nos missions quand même à côté de ça. Mais donc c'est vraiment de travailler en équipe, de savoir qui fait quoi et petit pas par petit pas, on essaye de faire le centre d'art de demain.
C'est une amélioration continue des pratiques qui se fait là. Et il y a des dispositifs déjà qui sont amorcés depuis longtemps, de mutualisation par exemple, donc ne pas acheter chacun, chacune son matériel, mais pouvoir l'emprunter si nécessaire, ça c'est quelque chose d'important. Je parlais des matériaux, bien de faire de plus en plus attention à ces matériaux d'où ils proviennent. Les compétences aussi auxquelles on fait appel dans le cadre de production d'œuvres, les trouver en local, ne pas faire appel forcément à des structures qui seraient très lointaines, faire attention aux usages du numérique, tu en parlais sur l'envoi des newsletters, mais c'est le stockage de données sur des sites internet, sur l'affichage des images qui sollicitent beaucoup les serveurs et peut-être qu'on peut offrir des options qui limitent ce type de sollicitation de serveurs en cochant quelque chose qui nous dit je ne souhaite pas afficher les images sur un site internet. Il y a plein de petites solutions qui sont là. Thibault le rappelait quand même, c'est vrai que l'impact des centres d'art au total, et sans nier notre responsabilité collective, hein, là-dedans, elle est modeste, mais c'est trouver justement où on peut agir, la mobilité, dans un sens, avec parfois des injonctions un peu contradictoires, parce que pour nos lieux, c'est aussi toujours être très visible, faire venir de nouveaux publics, mais voilà, s'il y a cette faire venir des publics, en même temps limiter la conséquence en émissions carbone. Mais au-delà de ça, voilà, c'est jouer sur plusieurs leviers, et puis voilà, amélioration continue, et puis très bien dit aussi, c'est que ça s'intègre aussi à nos missions plus traditionnelles de médiation, de production, de communication, qui sont nos métiers, qui sont nos cœurs de métier, mais il faut bien qu'on intègre aussi ces nouvelles pratiques, nouveaux usages, prendre de bonnes habitudes.
Donc il y a une réelle évolution, une amélioration. Et depuis combien de temps ces journées professionnelles sont organisées? Depuis combien d'années?
Ça, c'est toi qui sais.
Eh bien non, je ne saurais même pas, mais ça fait très longtemps que c'est organisé. DCA, je ne connais même pas la date de création de cette association-là, donc qui réunit un certain nombre de centres d'art français. Mais ça fait très longtemps qu'il y a ces rencontres-là. Mais voilà, là, vraiment, on sent que face aux urgences de notre époque, on voit bien que partout dans la culture, et pas simplement dans la culture, cette question dans ce qu'on appelle la transition écologique se pose vraiment fortement. Donc c'est pas étonnant que depuis plusieurs années déjà, les centres d'art, de leur côté, y réfléchissent, y travaillent, peuvent trouver des solutions dans leur coin, mais qu'à un moment donné, c'est bien de les mettre en commun, c'est bien de créer ces espaces de réflexion, et puis de lancer aussi des choses pour les années à venir, pour continuer à améliorer ça. Donc je n'ai malheureusement pas la réponse à votre question sur ces rencontres et leurs origines, ça fait très longtemps que ça existe.
Et aujourd'hui, il y avait aussi une journée du coup, qui était ouverte au public, c'est bien ça? Donc c'était plutôt des conférences que des ateliers. Il y a eu aussi beaucoup de thèmes. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous résumer potentiellement ce qui a été dit?
Alors aujourd'hui, Cyril parlait tout à l'heure de mutualisation et l'exemple est très chouette. Cette année, DCA mutualise ses journées professionnelles avec les rencontres professionnelles des arts visuels organisées par Rennes-Ville et Métropole. Et donc là, on est sur de la coopération forte sur une thématique qui est... au cœur de la ville aussi, je crois qu'on le sait tous, hein, on est quand même relativement bien lotis à Rennes pour parler de transition écologique. Et donc ces journées étaient un peu plus ouvertes au public puisque les conférences plus il y a de place, mieux c'est. Donc là, l'idée, c'était plutôt de réunir un ensemble d'acteurs plus ou moins de proximité, mais qui étaient capables aussi de rebondir sur cette thématique par le biais d'exemples à leur échelle ou par le biais de regards entrecroisés à différentes échelles. Justement, je pense à la première conférence de ce matin qui réunissait Natacha Provençal du ministère de la Culture, Carole Brulard, notre chargée des publics à la CRIER, et les autres noms que j'oublie.
Beaucoup d'autres personnes très intéressantes.
Mais en tout cas, voilà, de venir réunir la DRAC à hauteur de la région, le ministère et la réalité d'un centre d'art, et de faire confronter tout ça et de se dire, bah voilà, c'est une nouvelle manière de faire ensemble et de confronter les idées pour en créer des nouvelles.
Ouais, s'il faut les citer, il y avait aussi Laurence Perilla, donc du collectif Les Augures, Lucie Marigny également, qui est professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers, qui est titulaire de la chaire d'ingénierie de la culture et de la création responsable. Donc voilà, des personnes qui pouvaient apporter différents points de vue sur ces thématiques-là, donc plusieurs tables rondes qui ont été organisées toute la journée et qui étaient à destination, bon, en priorité des acteurs et actrices de la culture à Rennes, pas simplement dans le champ des arts visuels, hein, ça peut être tout domaine, et puis voilà, cette ouverture très large aussi pour partager avec les publics sur ces questions-là.
Avant de se quitter, pour conclure cette interview, un mot rapide chacun sur la programmation de vos centres d'art respectifs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à la CRIER à 40 mètres cubes ?
Bah, j'ai peut-être commencé par 40 mètres cubes. On a actuellement une exposition de Josephine Jam qui se déroule jusqu'au 18 janvier. C'est une exposition qui aborde des questions d'afrofuturisme, c'est-à-dire de culture, notamment de centre et ouest de l'Afrique, dans une perspective d'envisager un avenir qui soit peut-être différent que celui que nous sommes en train de tracer, avec des références culturelles plus occidentalo-centrée et peut-être plus masculine aussi. Et puis fin janvier, on peut donner rendez-vous dès maintenant, le vendredi 31 janvier, pour le vernissage de notre prochaine exposition qui se déroule dans le cadre de Viva Villa, qui est un dispositif porté par l'Institut français. Et on invite une commissaire à cette occasion, une exposition collective. Et il sera aussi question d'identité de minorité aussi et de visibilité de culture des minorités, enfin de ce qu'on qualifie de minorité.
Et pour la CRIER, en ce moment, on accueille Pierre-Jean Gilloux avec son exposition Biomimetic Stories, qui terminera le 29 décembre, qui là interroge plutôt l'urbanisme et sa capacité à s'adapter au changement climatique. C'est bien, on est pile dedans, notamment avec, pour angle de vue, l'Inde, qui subit le plus de drames par la chaleur, par l'eau, par plein de choses. Pierre-Jean propose 4 films, c'est 4 longues années de travail où il mêle images réelles et images virtuelles et vient proposer des futurs possibles et des solutions d'adaptation pour pallier à ces petits soucis-là. Et après, on enchaînera avec une exposition qui, elle, vernit le 7 février, donc c'est bien. On a plein de rendez-vous dès ce début d'année. où là, on accueillera l'artiste Eurydice Zetouna Kala qui recroisera probablement les mêmes problématiques que celles que 40 mètres cubes soulèvera dans l'expo du mois de janvier.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de 6 heures avant
minuit.
Merci
pour votre invitation.
6 heures avant minuit.
Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais depuis la semaine dernière, des nouveautés ont été ajoutées à la playlist de Syllab et sont des titres d'artistes qui sont produits ou qui vont se produire au festival Transmusical qui a lieu la semaine prochaine hein, déjà. Eva nous raconte tout ça dans sa chronique Teki Torlivit.
Oui, tu parles déjà des trans. Oui, attends, Héloïse, me vole pas mon sujet. Aujourd'hui, je fais une chronique Take It or Leave It spéciale sur les artistes des trans. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce festival, un petit récap se doit, mais vraiment un cours, ok ? Alors déjà, okay. C'est un festival qui se tient à Rennes, début décembre, du 4 au 8, dans différents lieux, Liberté, Parc Expo, Salle de la Cité, Ubu, avec plus de 80 artistes ou groupes d'artistes différents, et qui a comme finalité majeure de faire découvrir des artistes français ou internationaux, plus particulièrement de les mettre en avant, enfin de jeunes talents, à un public propice à la découverte. Et du coup, nous, pour célébrer la 46e édition du festival, on a décidé d'ajouter un peu moins de 30 chansons de ces artistes. Alors, je vais pas vous faire écouter les 30, hein, mais j'ai fait une petite sélection avec quelques-uns des artistes qui vont jouer cette année au festival et dont les chansons sont à écouter sur 88.4 FM.
Yeah.
On commence avec la France, mais surtout une rennaise, parce que c'est mes prefs. Cat White et sa chanson Ghosts, basée sur une mélodie guitare-voix accompagnée par des sons spacieux. On continue avec Alexis Lumière, qui est aussi français. Et sa chanson, cette fois, c'est avec un clavier style console de jeux vidéo dans l'espace.
Okay. Ça te va, Louise ? J'adore.
Fiat Lux. Et encore du français, parce qu'on
décidément.
Est en France. Enfin, cette fois, c'est un groupe, 135, et composé de 12 mecs. Et ouais, 12. Et la chanson Climax, c'est du lourd, du rap sur un beat électro.
Je te vois déjà danser là-dessus. Oui. C'est quoi ça? C'est Hall 9?
Non,
tu sais pas, t'as pas noté.
J'ai pas noté, faut que je note.
Je vois très bien.
Je vais tous les noter. Mais le temps file, Héloïse. Me distrais pas.
Pardon. Excuse-moi.
Donc je vous balance trois autres chansons d'artistes, cette fois internationaux, mais avec trois styles très différents, mais en remix. Parce que pourquoi pas.
Let's go.
Eva a quasiment headbangé. Mais c'est pas du métal, hein.
Non, mais c'est Basic Partner. Et c'était aussi The Zawozi Queens et Ziad Al-Saman. Et ça, c'est qu'une infime portion de la programmation. Mais globalement, retenez ça. Avec les 80 plus artistes, vous trouverez quelque chose pour vous. C'est le but. La diversité stylistique qu'on retrouve dans la prog musicale est faite pour montrer l'étendue des styles musicaux et des talents encore trop tapis dans l'ombre.
Merci Eva, tous ces artistes sont à retrouver dans la playlist de Scylab. Et puis certains d'entre eux et d'autres, vous pourrez les entendre sur le plateau de Scylab parce qu'on sera au Trans, bien sûr, le vendredi 6 décembre. Écoutez-nous en direct du Liberté de 16h à 19h. On vous prépare plein de surprises. Et puis d'ailleurs, je voulais aussi vous passer un autre message. Profitez-en, nous organisons un jeu concours pour les Trans musicales. Donc on vous propose de gagner une place pour une des soirées des Trans au Parc Expo les 5, 6, 7 décembre 2024 ou un CD compil collector de la prog de cette 46e édition. Vous aurez besoin d'un mot de passe pour gagner une de ces choses. Le mot de passe, c'est, vous en souvenez,
Albatros.
Oh, tu y étais presque. Non, c'est pas Albatros.
Goéland. Pourquoi c'est Albatros?
Mais tu y étais presque. Non. Le mot de passe, c'est Goéland. Donc, pour jouer, rendez-vous sur c-lab.fr, rubrique concours du moment Goéland, hein, pas Albatros. Hein. Tu vas induire en erreur nos éditeurs auditrices. Et puis pour un autre jeu concours dont j'ai déjà beaucoup parlé, mais pour lequel vous pouvez aussi jouer, c'est pour le festival Culture Barbare. Oui Eva, t'as quelque chose à dire ?
Conan.
Voilà, avec Conan. Le mot de passe c'est Conan. Là aussi vous pouvez c'est gagner des places pour les concerts de l'âme rock, de Grabuge et du Melody Maker. Un dernier message, je vous promets, avant de se quitter.
Ah, le téléphone. Allô,
Scylab, la radio sauvage. Vous avez un message à nous faire passer, il se passe quelque chose de marquant près de chez vous, vous voulez faire une déclaration d'amour, pousser un coup de gueule, vous voulez nous faire un retour sur nos reportages, sur nos invités, sur nos interviews, n'hésitez pas, vous pouvez nous laisser un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Votre message sera diffusé à la toute fin de 6h avant minuit, avant cette réplique culte que vous m'entendez dire tous les soirs. Laissez-nous un message. Voilà. Merci Timothée pour la technique. À demain sur Syllab.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18 heures, 19 heures, sur Syllab,
la radio sauvage.